Chapitre 9. Mon cousin, dit Marguerite à Pierre Quint, et vous, monsieur, dit-elle à monsieur de Solis, vous êtes sans doute venu voir mon père pendant mon absence. Je vous remercie de ces preuves d'amitié. Vous ne ferez sans doute pas moins pour deux pauvres filles qui vont avoir besoin de conseils. Mais entendons-nous à ce sujet. Quand je serai en ville, je vous recevrai toujours avec le plus grand plaisir. Mais quand Félicie sera seule ici avec Josette et Martin, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne doit voir personne, fût-ce un vieil ami et le plus dévoué de vos parents. Dans les circonstances où nous nous trouvons, notre conduite doit être d'une irréprochable sévérité. Nous voici donc pour longtemps voués au travail et à la solitude. Le silence régna pendant quelques instants. Emmanuel, abîmé dans la contemplation de la tête de Marguerite, semblait muet. Pierre Quint ne savait que dire. Le notaire prit congé de sa cousine en éprouvant un mouvement de rage contre lui-même. Il avait deviné tout à coup que Marguerite aimait Emmanuel et qu'il venait de se conduire en vrai sot. « Ah ça, Pierre Quint, mon ami, se dit-il en s'apostrophant lui-même dans la rue. Un homme qui te dirait que tu es un grand animal aurait raison. Suis-je bête? Faire 12 000 livres de rente en dehors de ma charge, sans compter la succession de mon oncle Desraquets, de qui je suis le seul héritier et qui me doublera ma fortune un jour ou l'autre. Enfin, il ne souhaite pas de mourir, il est économe. Et j'ai la famille de demander des intérêts à Mademoiselle Claës. Oh, je suis sûr qu'un d'eux, ils se moquent maintenant de moi. Je ne dois plus penser à Marguerite, non. D'après tout, Félicie est une douce et bonne petite créature qui me convient mieux. Marguerite a un caractère de fer, elle voudrait me donner, me dominer, elle ne me dominerait pas. Oh, elle me dominerait. Alors, montrons-nous généreux, ne soyons pas tant notaires. Je ne peux donc pas secouer ce harnais-là. Ah, sac à papier, je vais me mettre à aimer Félicie, et je ne bouge pas de ce sentiment-là. Fourche, elle aura une femme ferme de 430 arpents qui, dans un temps donné, vaudra entre 15 et 20 000 francs de rente, car les terrains de Vigny sont bons. Que mon oncle Desraquets meure, pauvre bonhomme, ben, je vends mon étude et je suis un homme de 50 000 livres de rente. Ma femme est une Claës, je suis allié à des maisons considérables. Mais diantre, nous verrons si les courtes villes, les Magaliens, les Savarons de Savarus refuseront de venir chez un Pierre Quint Claës Molina Douro. Je serai maître de Douai, j'aurai la croix, je puis être député, j'arrive à tout. Ah, Saint-Pierre Quint, mon garçon, tiens-toi là, ne faisons plus de sottises, et d'autant que ma parole d'honneur, Félicie. Mademoiselle Félicie, Van Claës, elle t'aime. Quand les deux amants furent seuls, Emmanuel tendit une main à Marguerite, qui ne put s'empêcher d'y mettre sa main droite. Ils se levèrent par un mouvement unanime en se dirigeant vers leur banc dans le jardin. Mais au milieu du parloir, l'amant ne put résister à sa joie, et d'une voix que l'émotion rendit tremblante, il dit à Marguerite « J'ai 300 000 francs à vous. » Comment ? S'écria-t-elle. « Ma pauvre mère vous serait encore confiée. »« Non, quoi ?»« Mais, ma Marguerite, ce qui est à moi n'est-il pas à vous ? N'est-ce pas vous qui la première avez dit « nous »?»« Cher Emmanuel, » dit-elle, en pressant la main qu'elle tenait toujours. Et au lieu d'aller au jardin, elle se jeta dans la bergère. « Mais n'est-ce pas à moi de vous remercier ?» dit-il avec sa voix d'amour. « Puisque vous acceptez. »« Ce moment, dit-elle, mon cher bien-aimé, efface bien des douleurs et rapproche un heureux avenir. »« Oh oui, j'accepte ta fortune, » reprit-elle en laissant errer sur ses lèvres un sourire d'ange. « Je sais le moyen de la faire mienne. » Elle regarda le portrait de Van Claës comme pour avoir un témoin. Le jeune homme, qui suivait les regards de Marguerite, ne lui vit pas tirer de son doigt une bague de jeune fille, et ne s'aperçut de ce geste qu'au moment où il entendit ces paroles. Au milieu de nos profondes misères, il surgit un bonheur. Mon père me laisse, par insouciance, la libre disposition de moi-même, dit-elle en tendant la bague. Prends, Emmanuel. Ma mère te chérissait, elle t'aurait choisi. Les larmes vinrent aux yeux d'Emmanuel. Il pâlit, tomba sur ses genoux et dit à Marguerite, en lui donnant un anneau qu'il portait toujours, « Voici l'alliance de ma mère. Ma Marguerite, reprit-il en baisant la bague, n'aurais-je donc d'autre gage que ceci ?» Elle se baissa pour apporter son front aux lèvres d'Emmanuel. « Hélas, mon pauvre aimé, ne faisons-nous pas là quelque chose de mal ? » dit-elle tout émue, « car nous attendrons longtemps. » Mon oncle disait que l'adoration était le pain quotidien de la patience, en parlant du chrétien qui aime Dieu. Moi, je puis t'aimer ainsi. Je t'ai depuis longtemps confondu avec le Seigneur de toutes choses. Je suis à toi comme je suis à lui. Ils restèrent pendant quelques moments en proie à la plus douce exaltation. Ce fut la sincère et calme effusion d'un sentiment qui, semblable à une source trop pleine, débordait par de petites vagues incessantes. Les événements qui séparaient ces deux amants étaient un sujet de mélancolie qui rendit leur bonheur plus vif en lui donnant quelque chose d'aigu comme la douleur. Ah, Félicie revint trop tôt pour eux. Emmanuel, éclairé par le tact délicieux qui fait tout deviner en amour, laissa les deux sœurs seules, après avoir échangé avec Marguerite un regard où elle put voir tout ce que lui coûtait cette discrétion, car il exprima combien il était avide de ce bonheur désiré si longtemps et qui venait d'être consacré par les fiançailles du cœur. « Viens ici, petite sœur, » dit Marguerite en prenant Félicie par le cou. Puis, la ramenant dans le jardin, elles allèrent s'asseoir sur le banc auquel chaque génération avait confié ses paroles d'amour, ses soupirs de douleur, ses méditations et ses projets. Malgré le ton joyeux et l'aimable jeunesse du sourire de sa sœur, Félicie éprouvait une émotion qui ressemblait à un mouvement de peur. Marguerite lui prit la main et la sentit trembler. « Mademoiselle Félicie, » dit l'aînée en s'approchant de l'oreille de sa sœur, « je lis dans votre âme. » « Pierre Quint est venu souvent pendant mon absence. Il est venu tous les soirs. Il vous a dit de douces paroles et vous les avez écoutées. » Félicie rougit. « Mais ne t'en défends pas, mon ange, » reprit Marguerite. « Il est si naturel d'aimer. » Peut-être ta chère âme changera-t-elle un peu la nature du cousin. Il est égoïste, intéressé, mais c'est un honnête homme. Et sans doute ses défauts serviront à ton bonheur. Il t'aimera comme la plus jolie de ses propriétés. Tu feras partie de ses affaires. Oh, pardonne-moi ce beau cher ami. Tu le corrigeras des mauvaises habitudes qu'il a prises, de ne voir partout que des intérêts en lui apprenant les affaires du cœur. Félicie ne put qu'embrasser sa sœur. « D'ailleurs, reprit Marguerite, il a de la fortune. Sa famille est de la plus haute et de la plus ancienne bourgeoisie. Mais serait-ce donc moi qui m'opposerais à ton bonheur si tu veux le trouver dans une condition médiocre ?» Félicie laissa échapper ses mots. « Oh, chère sœur, oh oui, mais tu peux te confier à moi, » s'écria Marguerite. Quoi de plus naturel que de nous dire nos secrets ? Ce mot plein d'âme détermina l'une de ces causeries délicieuses où les jeunes filles se disent tout. Quand Marguerite, que l'amour avait fait experte, eut reconnu l'état du cœur de Félicie, elle finit en lui disant « Eh bien, ma chère enfant, assurons-nous que le cousin t'aime véritablement, et alors ?» « Oh, laisse-moi faire, » répondit Félicie en riant, « j'ai mes modèles. »« Folle, » dit Marguerite en la baisant au front. Quoique Pierre Quint appartint à cette classe d'hommes qui, dans le mariage, voient des obligations l'exécution des lois sociales et un mode pour la transmission des propriétés, qu'il lui fût indifférent d'épouser ou Félicie ou Marguerite si l'une ou l'autre avait le même nom et la même dot, il s'aperçut néanmoins que toutes deux étaient, suivant de ses expressions, des filles romanesques et sentimentales, deux adjectifs que les gens sans cœur emploient pour se moquer des dons que la nature sème d'une main parcimonieuse à travers les sillons de l'humanité. Et le notaire se dit sans doute qu'il fallait hurler avec les loups. Et le lendemain, il vint voir Marguerite, il l'emmena mystérieusement dans le petit jardin et se mit à parler sentiment, puisque c'était une des clauses du contrat primitif qui devait précéder dans les lois du monde le contrat notarié. Chère cousine, lui dit-il, nous n'avons pas toujours été du même avis sur les moyens à prendre pour arriver à la conclusion heureuse de vos affaires. Mais vous devez reconnaître aujourd'hui que j'ai toujours été guidé par un grand désir de vous être utile. Eh bien, hier j'ai gâté mes offres par une fatale habitude que nous donne l'esprit notaire, comprenez-vous? Mon cœur n'était pas complice de ma sottise. Je vous ai bien aimé, mais nous avons une certaine perspicacité, nous autres, et je me suis aperçu que je ne vous plaisais pas. C'est ma faute. Un autre a été plus adroit que moi. Eh bien, je viens vous avouer tout bonifacement que j'éprouve un amour réel pour votre sœur Félicie. Traitez-moi donc comme un frère. Puisez dans ma bourse, prenez la même. Allez, plus vous prendrez, plus vous me prouverez d'amitié. Je suis tout à vous, sans intérêt, entendez-vous, ni à 12, ni à 1/4%. Que je sois trouvé digne de Félicie, je serai content. Pardonnez-moi mes défauts, ils ne viennent que de la pratique des affaires. Le cœur est bon, et je me jetterai dans la scarpe, plutôt que de ne pas rendre ma femme heureuse. « Bien voilà qui est bien, cousin, dit Marguerite, mais ma sœur dépend d'elle et de notre père. »« Bon, je sais cela, ma chère cousine, dit le notaire, mais vous êtes la mère de toute la famille, et je n'ai rien plus à cœur que de vous rendre plus juge du mien. » Cette façon de parler peint assez bien l'esprit de l'honnête notaire. Plus tard, Pierre Quint devint célèbre par sa réponse au commandant du camp de Saint-Omer, qu'il avait prié d'assister à une fête militaire, et qui fut ainsi conçu. Monsieur Pierre Quint Claës de Molinat-Nouraud, maire de la ville de Douai, chevalier de la Légion d'honneur, aura celui de se rendre, etc. Marguerite accepta l'assistance du notaire, mais seulement dans tout ce qui concernait sa profession, afin de ne compromettre en rien ni sa dignité de femme, ni l'avenir de sa sœur, ni les déterminations de son père. Ce jour même, elle confia sa sœur à la garde de Josette et de Martha, qui se vouèrent corps et âme à leur jeune maîtresse, en secondant les plans d'économie. Marguerite partit aussitôt pour Vigny, où elle commença ses opérations, qui furent savamment dirigées par Pierre Quint. Le dévouement s'était chiffré dans l'esprit du notaire comme une excellente spéculation. Ses soins, ses peines furent alors en quelque sorte une mise de fonds qu'il ne voulut point épargner. D'abord, il tenta d'éviter à Marguerite la peine de faire défricher et de labourer les terres destinées aux fermes. Il avisa trois jeunes fils de fermiers riches qui désiraient s'établir. Il les séduisit par la perspective que leur offrait la richesse de ces terrains, et réussit à leur faire prendre à bail les trois fermes qui allaient être construites. Moyennant l'abandon du prix de la ferme pendant 3 ans, les fermiers s'engagèrent à en donner 10 000 francs de loyer à la 4e année, 12 000 à la 6e et 15 000 pendant le reste du bail. À creuser les fossés, faire les plantations et acheter les bestiaux. Pendant que les fermes se bâtirent, les fermiers vinrent défricher leurs terres. 4 ans après le départ de Balthazar, Marguerite avait déjà presque rétabli la fortune de son frère et de sa sœur. 200 000 francs suffirent à payer toutes les constructions. Ni les secours, ni le conseil ne manquèrent à cette courageuse fille, dont la conduite excitait l'admiration de la ville. Marguerite surveilla ses bâtisses, l'exécution de ses marchés et de ses baux avec ce bon sens, cette activité, cette constance que savent dépouiller les femmes quand elles sont animées par un grand sentiment. Dès la 5e année, elle put consacrer 30 000 francs de revenus que donnèrent les fermes, les rentes de son frère et le produit des biens paternels, à l'acquittement des capitaux hypothéqués et à la réparation des dommages que la passion de Balthazar avait fait dans sa maison. L'amortissement devait donc aller rapidement par la décroissance des intérêts. Emmanuel de Solis offrit d'ailleurs à Marguerite les 100 000 francs qui lui restaient sur la succession de son oncle et qu'elle n'avait pas employés, en y joignant 20 000 francs de ses économies, en sorte que, dès la 3e année de sa gestion, elle put acquitter une assez forte somme de dettes. Cette vie de courage, de privation et de dévouement ne se démentit point durant 5 années. Mais tout fut d'ailleurs succès et réussite sous l'administration et l'influence de Marguerite. Devenu ingénieur des ponts et chaussées, Gabriel, aidé par son grand-oncle, fit une rapide fortune dans l'entreprise d'un canal qu'il construisit et sut plaire à sa cousine, Mademoiselle Coninx, que son père adorait et l'une des plus riches héritières des deux Flandres. En 1824, les biens de Claës se trouvèrent libres et la maison de la rue de Paris avait réparé ses pertes. Pierre Quint demanda positivement la main de Félicie à Balthazar, de même que M. de Solis sollicita celle de Marguerite. Au commencement du mois de janvier 1825, Marguerite et M. Coninx partirent pour aller chercher le père exilé, de qui chacun désirait vivement le retour, et qui donna sa démission afin de rester au milieu de sa famille, dont le bonheur allait recevoir sa sanction. En l'absence de Marguerite, qui souvent avait exprimé le regret de ne pouvoir remplir les cadres vides de la galerie et des appartements de réception pour le jour où son père reprendrait sa maison, Pierre Quint et M. de Solis complotèrent avec Félicie de préparer à Marguerite une surprise qui ferait participer en quelque sorte la sœur cadette à la restauration de la maison Claës. Tous deux avaient acheté à Félicie plusieurs beaux tableaux qu'ils lui offrirent pour décorer la galerie. M. Coninx avait eu la même idée. Voulant témoigner à Marguerite la satisfaction que lui causait sa noble conduite et son dévouement à remplir le mandat qui lui avait légué sa mère, il avait pris des mesures pour qu'on apportât 50 de ses plus belles toiles et quelques-unes de celles que Balthazar avait jadis vendues, en sorte que la galerie Claës fut entièrement remeublée. Marguerite était déjà venue plusieurs fois voir son père, accompagné de sa sœur ou de Jean. Chaque fois, elle l'avait trouvé progressivement plus changé. Mais depuis sa dernière visite, la vieillesse s'était manifestée chez Balthazar par d'effrayants symptômes, à la gravité desquels contribuait sans doute la parcimonie avec laquelle il vivait afin de pouvoir employer la plus grande partie de ses appointements à faire des expériences qui trompaient toujours son espoir. Quoiqu'il ne fût âgé que de 65 ans, il avait l'apparence d'un octogénaire. Ses yeux s'étaient profondément enfoncés dans leurs orbites, ses sourcils avaient blanchi, quelques cheveux lui garnissaient à peine la nuque. Il laissait croître sa barbe qu'il coupait avec des ciseaux quand elle le gênait. Il était courbé comme un vieux vigneron. Puis le désordre de ses vêtements avait repris un caractère de misère que la décrépitude rendait hideux. Quoiqu'une pensée forte animât ce grand visage dont les traits ne se voyaient plus sous les rides, la fixité du regard, un air désespéré, une constante inquiétude, y gravaient les diagnostics de la démence, ou plutôt de toutes les démences ensemble. Tantôt il y apparaissait un espoir qui donnait à Balthazar l'expression du monomane, tantôt l'impatience de ne pas deviner un secret qui se présentait à lui comme un feu follet y mettait les symptômes de la fureur. Puis tout à coup, un rire éclatant trahissait la folie. Enfin, la plupart du temps, l'abattement le plus complet résumait toutes les nuances de sa passion par la froide mélancolie de l'idiot. Quelque fugace et imperceptible que fussent ses expressions pour des étrangers, elles étaient malheureusement trop sensibles pour ceux qui connaissaient un Claës sublime de bonté, grand par le cœur, beau de visage, et duquel il n'existait que de rares vestiges. Vieilli, lassé comme son maître par de constants travaux, le mulquinier n'avait pas eu à subir, comme lui, les fatigues de la pensée. Aussi, sa physionomie offrait-elle un singulier mélange d'inquiétude et d'admiration pour son maître, auquel il était facile de se méprendre. Quoiqu'il écoutât sa moindre parole avec respect, qu'il suivît ses moindres mouvements avec une sorte de tendresse, il avait soin du savant comme une mère a soin d'un enfant. Souvent, il pouvait avoir l'air de le protéger, parce qu'il le protégeait véritablement dans les vulgaires nécessités de la vie auxquelles Balthazar ne pensait jamais. Ces deux vieillards, enveloppés par une idée, confiants dans la réalité de leur espoir, agités par le même souffle, l'un représentant l'enveloppe et l'autre l'âme de leur existence commune, formaient un spectacle à la fois horrible et attendrissant. Lorsque Marguerite et M. Comminck arrivèrent, ils trouvèrent Claës établi dans une auberge. Son successeur ne s'était pas fait attendre et avait déjà pris possession de la place. À travers les préoccupations de la science, un désir de revoir sa patrie, sa maison, sa famille agitait Balthazar. La lettre de sa fille lui avait annoncé des événements heureux. Il songeait à couronner sa carrière par une série d'expériences qui devaient le mener enfin à la découverte de son problème. Il attendait donc Marguerite avec une excessive impatience. La fille se jeta dans les bras de son père en pleurant de joie. Cette fois, elle venait chercher la récompense d'une vie douloureuse et le pardon de sa gloire domestique. Elle se sentait criminelle à la manière des grands hommes qui violent les libertés pour sauver la patrie. Mais en contemplant son père, elle frémit en reconnaissant les changements qui depuis sa dernière visite s'était opéré en lui. Coninck se partagea le secret effroi de sa nièce et insista pour emmener au plus tôt son cousin à Douai où l'influence de la patrie pouvait le rendre à la raison, à la santé, en le rendant à la vie heureuse du foyer domestique. Après les premières effusions de cœur qui furent plus vives de la part de Balthazar que Marguerite ne le croyait, il eut pour elle des attentions singulières. Il témoigna le regret de la recevoir dans une mauvaise chambre d'auberge. Il s'informa de ses goûts. Il lui demanda ce qu'elle voulait pour ses repas, avec les soins empressés d'un amant. Il eut enfin les manières d'un coupable qui veut s'assurer de son juge. Marguerite connaissait si bien son père qu'elle devina le motif de cette tendresse, en supposant qu'il pouvait avoir en ville quelques dettes auxquelles il voulait s'acquitter avant son départ. Elle observa pendant quelque temps son père et vit alors le cœur humain nu. Balthazar s'était rapetissé. Le sentiment de son abaissement, l'isolement dans lequel le mettait la science, l'avait rendu timide et enfant dans toutes les questions étrangères à ses occupations favorites. Sa fille aînée lui imposait le souvenir de son dévouement passé, de la force qu'elle avait déployée, la conscience du pouvoir qui lui avait laissé prendre la fortune dont elle disposait, et les sentiments indéfinissables qui s'étaient emparés de lui, depuis le jour où il avait abdiqué sa paternité déjà compromise, la lui avait sans doute grandi de jour en jour. Coninck semblait n'être rien aux yeux de Balthazar. Il ne voyait que sa fille et ne pensait qu'à elle, en paraissant la redouter comme certains maris faibles redoutent la femme supérieure qui les a subjugués. Lorsqu'il levait les yeux sur elle, Marguerite y surprenait avec douleur une expression de crainte semblable à celle d'un enfant qui se sent fautif. La noble fille ne savait comment concilier la majestueuse et terrible expression de ce crâne dévasté par la science et par les travaux, avec le sourire puéril, avec la servilité naïve qui se peignait sur les lèvres et la physionomie de Balthazar. Elle fut blessée du contraste que présentaient cette grandeur et cette petitesse, et se promit d'employer son influence à faire reconquérir à son père toute sa dignité pour le jour solennel où il allait reparaître au sein de sa famille. D'abord, elle se dit un moment où ils se trouvèrent seuls pour lui dire à l'oreille « Devez-vous quelque chose ici ?» Balthazar rougit et répondit d'un air embarrassé « Oh, je sais pas, mais le mulquinier te le dira. Ce brave garçon est plus au fait de mes affaires que je ne le suis moi-même. » Marguerite sonna le valet de chambre, et quand il vint, elle étudia presque involontairement la physionomie des deux vieillards. « Monsieur désire quelque chose ?» demanda le mulquinier. Marguerite, qui était tout orgueil et noblesse, eut un serrement de cœur en s'apercevant au ton et au maintien du valet qu'il s'était établi quelque familiarité mauvaise entre son père et le compagnon de ses travaux. « Mon père ne peut-il donc pas faire sans vous le compte de ce qu'il doit ici ?» dit Marguerite. « Ah, monsieur, reprit le mulquinier, doit... » À ces mots, Balthazar fit à son valet de chambre un signe d'intelligence que Marguerite surprit et qui l'humilia. « Dites-moi tout ce que doit mon père, » s'écria-t-elle. « Ah, ici, monsieur, doit... » Un millier d'écus à un apothicaire qui tient l'épicerie en gros et qui nous a fourni des potasses caustiques, du plomb, du zinc et des réactifs. Est-ce tout ? Dit Marguerite. Balthazar réitéra un signe affirmatif à le mulquinier qui, fasciné par son maître, répondit « Oui, mademoiselle. » « Eh bien, reprit-elle, je vais vous les remettre. » Balthazar embrassa joyeusement sa fille en lui disant « Oh, tu es un ange pour moi, mon enfant !» Et il respira plus à l'aise en la regardant d'un œil moins triste. Mais malgré cette joie, Marguerite aperçut facilement sur son visage les signes d'une profonde inquiétude et jugea que ces 1000 écus constituaient seulement les dettes criardes du laboratoire. « Soyez franc, mon père, » dit-elle en se laissant asseoir sur ses genoux par lui. « Vous devez encore quelque chose. Allez, avouez-moi tout. Revenez dans votre maison sans conserver un principe de crainte au milieu de la joie générale. »« Ma chère Marguerite, » lui dit-il en lui prenant les mains et en les lui baisant avec une grâce qui semblait être un souvenir de sa jeunesse. « Oui, tu me gronderas. » « Non, » dit-elle. « Vrai ?» répondit-il en laissant échapper un geste de joie enfantine. « Alors, je puis donc tout te dire. Ben, tu paieras. »« Oui ?» dit-elle en réprimant des larmes qui lui venaient aux yeux. « Eh bien, je dois, j'ose pas. Mais dites donc, mon père. »« Mais c'est considérable, » reprit-il. Elle joignit les mains par un mouvement de désespoir. « Bon, je dois 30 000 francs à Monsieur Protet et Chiffreville. Eh bien, 30 000 francs, dit-elle, sont mes économies, mais j'ai du plaisir à vous les offrir, ajouta-t-elle en lui baisant le front avec respect. Il se leva, prit sa fille dans ses bras et tourna tout autour de la chambre en la faisant sauter comme un enfant. Puis il la remit sur le fauteuil où elle était en s'écriant: Ma chère enfant, mais tu es un trésor d'amour. Je ne vivais plus. Les Chiffreville m'ont écrit 3 lettres menaçantes et voulaient me poursuivre, moi qui leur ai fait faire fortune. Mon père, dit Marguerite avec un accent de désespoir, mais vous cherchez donc toujours? Mais toujours, dit-il avec un sourire de fou. Oh, mais je trouverai, bah, si tu savais où nous en sommes. Qui nous? Ben, je parle du Mulquinier. Il a fini par me comprendre, il m'aide bien. Pauvre garçon, il m'est si dévoué. Coninx interrompit la conversation en entrant. Marguerite fit signe à son père de se taire, en craignant qu'il ne se déconsidérât aux yeux de leur oncle. Elle était épouvantée des ravages que la préoccupation avait faits dans cette grande intelligence, absorbée dans la recherche d'un problème peut-être insoluble. Balthazar, qui ne voyait sans doute rien au-delà de ses fourneaux, ne devinait même pas la libération de sa fortune. Le lendemain, ils partirent pour la Flandre. Le voyage fut assez long pour que Marguerite pût acquérir de confuses lumières sur la situation dans laquelle se trouvaient son père et le muletier. Le valet avait-il sur le maître cet ascendant que savent prendre sur les plus grands esprits les gens sans éducation, qui se sentent nécessaires et qui, de concession en concession, savent marcher vers la domination avec la persistance que donne une idée fixe? Ou bien le maître avait-il contracté pour son valet cette espèce d'affection qui naît de l'habitude et semblable à celle qu'un ouvrier a pour son outil créateur, que l'arabe a pour son coursier libérateur? Marguerite épia quelques faits pour se décider, en se proposant de soustraire Balthazar à un jus humiliant s'il était réel. En passant à Paris, elle y resta durant quelques jours pour y acquitter les dettes de son père et prier les fabricants de produits chimiques de ne rien envoyer à Douai sans l'avoir prévenu à l'avance des demandes que leur ferait Claës. Elle obtint de son père qu'il changeât de costume et reprit les habitudes de toilette convenables à un homme de son rang. Cette restauration corporelle rendit à Balthazar une sorte de dignité physique qui fut de bon augure pour un changement d'idée. Bientôt, sa fille, heureuse par avance de toutes les surprises qui attendaient son père dans sa propre maison, repartit pour Douai. À 3 lieues de cette ville, Balthazar trouva sa fille Félicie à cheval, escortée par ses deux frères, par Emmanuel, par Pierrequin et par les intimes amis des 3 familles. Le voyage avait nécessairement distrait le chimiste de ses pensées habituelles. L'aspect de la Flandre avait agi sur son cœur. Aussi, quand il aperçut le joyeux cortège que lui formaient sa famille et ses amis, éprouva-t-il des émotions si vives que ses yeux devinrent humides, sa voix trembla, ses paupières rougirent, et il embrassa si passionnément ses enfants, sans pouvoir les quitter, que les spectateurs de cette scène furent émus jusqu'aux larmes. Lorsqu'il revit sa maison, il pâlit, sauta hors de la voiture de voyage avec l'agilité d'un jeune homme, respira l'air de la cour avec délices et se mit à regarder les moindres détails avec un plaisir qui débordait dans ses gestes. Il se redressa et sa physionomie redevint jeune. Quand il entra dans le parloir, il eut des pleurs aux yeux en y voyant par l'exactitude avec laquelle sa fille avait reproduit ses anciens flambeaux d'argent vendus, que le désastre devait être entièrement réparé. Un déjeuner splendide était servi dans la salle à manger, dont les dressoirs avaient été remplis de curiosités et d'argenterie d'une valeur au moins égale à celle des pièces qui s'y trouvaient jadis. Quoique ce repas de famille durât longtemps, il suffit à peine au récit que Balthazar exigeait de chacun de ses enfants. La secousse imprimée à son moral par ce retour lui fit épouser le bonheur de sa famille et il s'en montra bien le père. Ses manières reprirent leur ancienne noblesse. Dans le premier mouvement, il fut tout à la jouissance de la possession, sans se demander compte des moyens par lesquels il recouvrait tout ce qu'il avait perdu. Sa joie fut donc entière et pleine. Le déjeuner fini, les quatre enfants, le père et Pierre Quint le notaire, passèrent dans le parloir où Balthazar ne vit pas sans inquiétude des papiers timbrés qu'un clerc avait apportés sur une table devant laquelle il se tenait, comme pour assister son patron. Les enfants s'assirent, et Balthazar, étonné, resta debout devant la cheminée. « Ceci, dit Pierre Quint, est le compte de tutelle qu'aura M. Claes à ses enfants. Quoique ce ne soit pas très amusant, ajouta-t-il en riant, à la façon des notaires, qui prennent assez généralement un ton plaisant pour parler des affaires les plus sérieuses, il faut absolument que vous l'écoutiez. » Quoique les circonstances justifiassent cette phrase, M. Claes, à qui sa conscience rappelait le passé de sa vie, l'accepta comme un reproche et fronça les sourcils. Et le clerc commença la lecture. L'étonnement de Balthazar alla croissant à mesure que cet acte se déroulait. Il y était établi d'abord que la fortune de sa femme montait au moment du décès à 1 600 000 francs environ, et la conclusion de cette reddition de compte fournissait clairement à chacun de ses enfants une part entière comme aurait pu la gérer un bon et soigneux père de famille. Il en résultait que la maison était libre de toute hypothèque, que Balthazar était chez lui et que ses biens ruraux étaient également dégagés. Lorsque les divers actes furent signés, Pierre Quint présenta les quittances des sommes jadis empruntées et les mains levées des inscriptions qui pesaient sur les propriétés. En ce moment, Balthazar, qui recouvrait à la fois l'honneur de l'homme, la vie du père, la considération du citoyen, tomba dans un fauteuil. Il chercha Marguerite, qui par une de ses sublimes délicatesses de femme s'était absentée pendant cette lecture, afin de voir si toutes ses intentions avaient été bien remplies pour la fête. Chacun des membres de la famille comprit la pensée du vieillard au moment où ses yeux, faiblement humides, demandaient sa fille, que tous voyaient en ce moment par les yeux de l'âme comme un ange de force et de lumière. Lucien alla chercher Marguerite. En entendant le pas de sa fille, Balthazar courut la serrer dans ses bras. « Mon père, lui dit-elle au pied de l'escalier, où le vieillard la saisit pour l'étreindre, je vous en supplie, ne diminuez en rien votre sainte autorité. Remerciez-moi, devant toute la famille, d'avoir bien accompli vos intentions, et soyez ainsi le seul auteur du bien qui a pu se faire ici. » Balthazar leva les yeux au ciel, regarda sa fille, se croisa les bras et dit, après une pause pendant laquelle son visage prit une expression que ses enfants ne lui avaient pas vue depuis 10 ans, « Oh, connais-tu là, Pepita, pour admirer notre enfant ?» Il serra Marguerite avec force, sans pouvoir prononcer une parole, et rentra. Mes enfants, dit-il avec cette noblesse de maintien qui en faisait autrefois un des hommes les plus imposants, nous devons tous des remerciements et de la reconnaissance à ma fille Marguerite pour la sagesse et le courage avec lesquels elle a rempli mes intentions, exécuté mes plans, lorsque, trop absorbé par mes travaux, je lui ai remis les rênes de notre administration domestique. « Ah, maintenant, nous allons lire les contrats de mariage, » dit Pierre Quint en regardant l'heure. « Mais ces actes-là ne me regardent pas, tandis que la loi me défend d'instrumenter pour mes parents et pour moi. Monsieur Rapparlier, l'oncle, va venir. » En ce moment, les amis de la famille invités au dîner que l'on donnait pour fêter le retour de Monsieur Claës et célébrer la signature des contrats, arrivèrent successivement pendant que les gens apportèrent les cadeaux de noces. L'assemblée s'augmenta promptement et devint aussi imposante par la quantité des personnes qu'elle était belle par la richesse des toilettes. Les trois familles qui s'unissaient par le bonheur de leurs enfants avaient voulu rivaliser de splendeur. En un moment, le parloir fut plein des gracieux présents qui se font aux fiancés. L'or ruisselait et pétillait. Les étoffes dépliées, les châles de cachemire, les colliers, les parures excitaient une joie si vraie chez ceux qui les donnaient et chez celles qui les recevaient. Cette joie enfantine à demi se peignait si bien sur tous les visages que la valeur de ces présents magnifiques était oubliée par les indifférents, assez souvent occupés à la calculer par curiosité. Bientôt commença le cérémonial usité dans la famille Claës pour ses solennités. Le père et la mère devaient seuls être assis, et les assistants demeuraient debout devant eux à distance. À gauche du parloir et du côté du jardin se placèrent Gabriel Claës et Mademoiselle Comminx, auprès de qui se tinrent Monsieur de Solis et Marguerite, sa sœur et Pierre Quint. À quelques pas de ces trois couples, Balthazar et Coninx, les seuls de l'assemblée qui fussent assis, prirent place chacun dans un fauteuil près du notaire qui remplaçait Pierre Quint. Jean était debout derrière son père. Une vingtaine de femmes élégamment mises et quelques hommes, tous choisis parmi les plus proches parents des Pierre Quint, des Coninx et des Claës, le maire de Douai, qui devait marier les époux, les 12 témoins pris parmi les amis les plus dévoués des trois familles, et dont faisait partie le premier président de la cour royale, tous, jusqu'au curé de Saint-Pierre, restèrent debout en formant du côté de la cour un cercle important. Cet hommage rendu par toute cette assemblée à la paternité qui, dans cet instant, rayonnait d'une majesté royale, imprimait à cette scène une couleur antique. Ce fut le seul moment pendant lequel, depuis 16 ans, Balthazar oublia la recherche de l'absolu. M. Rapparlier, le notaire, alla demander à Marguerite et à sa sœur si toutes les personnes invitées à la signature et au dîner qui devaient la suivre étaient arrivées. Et sur leur réponse affirmative, il revint prendre le contrat de mariage de Marguerite et de M. de Solis, qui devait être lu le premier, quand tout à coup la porte du parloir s'ouvrit, et le muletinier se montra, le visage flamboyant de joie. « Monsieur, monsieur !» Balthazar jeta sur Marguerite un regard de désespoir, lui fit un signe et l'emmena dans le jardin. Aussitôt, le trouble se mit dans l'assemblée. « Bien, je n'osais pas te le dire, mon enfant, » dit le père à sa fille. « Mais, puisque tu as tant fait pour moi, tu me sauveras de ce dernier malheur. Le mulquinier m'a prêté, pour une dernière expérience, oh, qu'il n'a pas réussi, 20 000 francs, le fruit de ses économies. » Le malheureux vient sans doute me les redemander en apprenant que je suis redevenu riche. Alors donne-les-lui sur le champ. Oh mon ange, tu lui dois ton père, car lui seul me consolait dans mes désastres. lui seul encore a foi en moi. Certes, sans lui, je serais mort. Monsieur, monsieur, cria le mulquinier. Eh bien, dit Balthazar en se retournant. Un diamant ! Claes sauta dans le parloir en apercevant un diamant dans la main de son valet de chambre qui lui dit tout bas : Je suis allé au laboratoire. Le chimiste, qui avait tout oublié, jeta un regard sur le vieux flamand, et ce regard ne pouvait se traduire que par ces mots : Mais tu es allé le premier au laboratoire. Et, dit le valet en continuant, et j'ai trouvé ce diamant dans la capsule qui communiquait avec cette pile que nous avions laissée en train de faire des siennes. Et elle en a fait, monsieur, ajouta-t-il en montrant un diamant blanc de forme octaédrique dont l'éclat attirait les regards étonnés de toute l'assemblée. Mes enfants, mes amis, dit Balthazar, pardonnez à mon vieux serviteur, pardonnez-moi. Ceci va me rendre fou. Un hasard de 7 années a produit sans moi une découverte que je cherche depuis 16 ans. Oh, comment, j'en sais rien. Oui, j'avais laissé du sulfure de carbone sous l'affluent d'une pile de Volta dont l'action aurait dû être surveillée tous les jours. Eh bien, pendant mon absence, le pouvoir de Dieu a éclaté dans mon laboratoire, sans que j'aie pu constater ses effets progressifs, bien entendu. Cela n'est-il pas affreux? Maudit exil, maudit hasard! Hélas, si j'avais épié cette longue, cette lente, cette subite, je ne sais comment dire, cristallisation, transformation, enfin, ce miracle, bien, mes enfants seraient plus riches encore. Quoi que ce soit pas la solution du problème, je cherche. Au moins, les premiers rayons de ma gloire auraient lui sur mon pays. Et ce moment que nos affections satisfaites rendent si ardent de bonheur serait encore échauffé par le soleil de la science. Chacun gardait le silence devant cet homme. Les paroles sans suite qui lui furent arrachées par la douleur furent trop vraies pour n'être pas sublimes. Tout à coup, Balthazar refoula son désespoir au fond de lui-même, jeta sur l'assemblée un regard majestueux qui brilla dans les âmes, prit le diamant et l'offrit à Marguerite en s'écriant « Il t'appartient, mon ange !» Puis il renvoya le mulquinier par un geste et dit au notaire « Continuons !» Ce mot excita dans l'assemblée le frissonnement que, dans certains rôles, Talma causait aux masses attentives. Balthazar s'était assis en se disant à voix basse « Je ne dois être que père aujourd'hui. » Marguerite entendit le mot, s'avança, saisit la main de son père et la baisa respectueusement. « Jamais homme n'a été si grand, dit Emmanuel, quand sa prétendue revint près de lui. Jamais homme n'a été si puissant, mais tout autre en deviendrait fou. » Les 3 contrats lui étaient signés. Chacun s'empressa de questionner Balthazar sur la manière dont s'était formé ce diamant, mais il ne pouvait rien répondre sur un accident si étrange. Il regarda son grenier et le montra par un geste de rage. « Oui, la puissance effrayante due au mouvement de la matière enflammée, qui sans doute a fait les métaux, les diamants, dit-il, s'est manifesté là, pendant un moment, par hasard. » Mais ce hasard est sans doute bien naturel, dit un de ces gens qui veulent expliquer tout. Le bonhomme aura oublié quelques diamants véritables. C'est autant de sauver sur ce qu'il a brûlé. Oublions cela, dit Balthazar à ses amis. Je vous prie de ne pas m'en parler aujourd'hui. Marguerite prit le bras de son père pour se rendre dans les appartements de la maison de devant, où l'attendait une somptueuse fête. Quand il entra dans la galerie après tous ses hôtes, il la vit meublée de tableaux et remplie de fleurs rares. « Des tableaux » s'écria-t-il, « des tableaux, et quelques-uns de nos anciens !» Il s'arrêta, son front se rembrunit. Il eut un moment de tristesse et sentit alors le poids de ses fautes en mesurant l'étendue de son humiliation secrète. « Mais tout cela est à vous, mon père, » dit Marguerite, en devinant les sentiments qui agitaient l'âme de Balthazar. « Ange que les esprits célestes doivent applaudir !» s'écria-t-il. « Combien de fois as-tu donc donné la vie à ton père ?»« Ne conservez plus aucun nuage sur votre front, ni la moindre pensée triste dans votre cœur, » répondit-elle, « et vous m'aurez récompensé au-delà de mes espérances. Je viens de penser à lui multiplier. Mon père chéri, le peu de mots que vous m'avez dit de lui me le fait estimer, et je l'avoue, oui, j'avais mal jugé cet homme. Ne pensez plus à ce que vous lui devez, il restera près de vous comme un humble ami. Emmanuel possède environ 60 000 francs d'économie. Nous les donnerons à le mulquinier. Après vous avoir si bien servi, cet homme doit être heureux le reste de ses jours. Ne vous inquiétez pas de nous. Monsieur de Solis et moi, nous aurons une vie calme et douce, une vie sans faste. Nous pouvons donc vous passer de cette somme jusqu'à ce que vous nous la rendiez. Oh, ma fille, ne m'abandonne jamais. Sois toujours la providence de ton père. » En entrant dans les appartements de réception, Balthazar les trouva restaurés et meublés aussi magnifiquement qu'ils l'étaient autrefois. Bientôt, les convives se rendirent dans la grande salle à manger du rez-de-chaussée par le grand escalier, sur chaque marche duquel se trouvaient des arbres fleuris. Une argenterie merveilleuse de façon, offerte par Gabriel à son père, séduisit les regards autant qu'un luxe de table qui parut inouï aux principaux habitants d'une ville où ce luxe est traditionnellement à la mode. Les domestiques de M. Coninx, ceux de Claès et de Pierre Quint, étaient là pour servir ce repas somptueux. En se voyant au milieu de cette table couronnée de parents, d'amis et de figures sur lesquelles éclatait une joie vive et sincère, Balthazar, derrière lequel se tenait le mulquinier, eut une émotion si pénétrante que chacun se tut comme on se tait devant les grandes joies ou les grandes douleurs. « Chers enfants, s'écria-t-il, vous avez tué le veau gras pour le retour du père prodigue. » Ce mot par lequel le savant se faisait justice et qui empêcha peut-être qu'on ne le lui fût plus sévère, fut prononcé si noblement que chacun attendri essuya ses larmes. Mais ce fut la dernière expression de mélancolie. La joie prit insensiblement le caractère bruyant et animé qui signale les fêtes de famille. Après le dîner, les principaux habitants de la ville arrivèrent pour le bal qui s'ouvrit et qui répondit à la splendeur classique de la maison Claès restaurée.